Merci pour ce Père que nous adorons en esprit, en vérité, pour cette réalité, ce Saint des Saints que nous avons touché ce matin, ce lieu très saint où tu es. Amen. Merci à l'équipe de ce chant, parce que ce cœur du Père, nous allons l'aborder ce matin. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Voilà, voilà. Donc, je vous propose ce matin de pouvoir continuer dans la thématique sur l'amour de Dieu. Vous savez que j'ai abordé ce thème depuis un petit moment déjà. Et nous allons continuer ce matin et sur cette thématique. Et peut-être pour ceux qui n'étaient pas là dans l'épisode précédent, on a fait deux, je crois, c'est notre troisième aujourd'hui, deux messages. Dans le dernier, c'était, j'ai pris l'amour que deux êtres peuvent avoir dans le couple, deux personnes. Et cet amour-là nous renseigne sur l'amour que Dieu a aussi pour nous. J'avais parlé de cet amour dans le couple, qui est un amour passionnel, hein, pour cet amour vraiment, des fois, qui a inspiré tellement de cinéastes ou de films. Et cet amour de Dieu qui est là et qui est présent dans la Bible. Dieu nous aime aussi comme cela. Mais l'amour du couple n'est pas juste passionnel, hein, ni sentimental, mais c'est aussi un engagement. Et cet amour-là, c'est Dieu qui s'engage vis-à-vis de nous. Et c'est vrai que c'est un engagement et c'est un amour qui n'abandonne pas, même quand ça ne va pas très bien. Parfois, malheureusement, dans le couple, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais l'amour de Dieu est un amour fidèle, un amour qui dure et un amour qui donne une seconde chance, un amour qui pardonne. Et on en a besoin dans la relation. Et je n'ai pas eu le temps de développer la dernière fois que l'amour de Dieu est un amour exclusif. Ce n'est pas de la polygamie, ce n'est pas du polyamour. Non, c'est un amour exclusif entre deux personnes. Et ça veut dire qu'il peut y avoir des tentations. Et cet amour-là, en fait, peut des fois être, il peut y avoir des idoles dans notre vie. Et cet amour avec Dieu est un amour exclusif. C'est la sainteté de la relation. Mais ce matin, j'aimerais pas vous parler, donc, de revenir sur tout ce que j'avais déjà dit. J'aimerais passer à l'épisode 3 de la saison sur l'amour, comment Dieu nous aime, et prendre un autre exemple avec vous de cet amour de Dieu qui pourrait illustrer dans notre vie sur terre, quelque chose qui pourrait illustrer encore cet amour de Dieu, comme l'amour conjugal, c'est l'amour filial, l'amour parental. Dieu nous aime comme les parents aiment leurs enfants. Est-ce qu'il y en a qui sont parents ici ? Est-ce qu'ils peuvent juste lever la main, qu'on puisse voir qui est parent ce matin ? Voilà. Il y en a quand même pas mal parmi nous. Qui c'est qui est le fils d'un père et d'une mère, enfin, de parents, en fait ? Qui c'est qui est le fils de parents ? Enfin, à moins que vous soyez atterrés comme ça, vous devriez tous lever la main, non ? Qui c'est qui a des parents ici ? On lève la main, tous ceux qui ont des parents ? Ok ? Ok, il y en a qui ne lèvent pas la main, donc je ne sais pas comment ils sont arrivés. Il faudra qu'ils m'expliquent. On a tous connu quelque part l'amour parental. Et peut-être pas toujours de manière très bien. C'est pour ça que certains ne lèvent pas la main, je ne sais pas. Mais peut-être pas toujours de manière parfaite, comme Dieu, lui, est parfait. Et c'est pour ça que ce matin, on va essayer de voir autrement aussi cet amour filial, cet amour parental. Juste peut-être une remarque. Dieu est très souvent présenté comme un père dans la Bible, il nous aime comme un père, mais il y a des images dans l'Ancien Testament où Dieu nous aime comme une mère. Il y a des associations avec cette idée-là. Il y a plusieurs passages, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ce détail ce matin, qui nous montre vraiment cet amour, vraiment des images très fortes, hein, où voilà, Dieu qui prend sur ses genoux, qui allaite, voilà, des images dans différents psaumes, chapitres de l'Ancien Testament. Alors ce matin, même si je vais aborder l'amour du Père, il y a aussi cette notion dans l'Ancien Testament, et même dans la Bible, de Dieu qui nous aime, qui a une compassion, donc il y a des termes aussi très féminins qui sont utilisés, comme les entrailles. Et en hébreu, les chachamim, ça vient de l'hébreu cherem, c'est l'utérus. Donc, c'est-à-dire cette idée d'avoir porté les entrailles qui crient. Mais ce matin, on va se concentrer plutôt sur l'amour du Père, même s'il faut garder l'idée, c'est plutôt cet amour filial. Que Dieu nous aime comme des parents aiment leurs enfants. Que Dieu nous a adoptés. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Nous avons été adoptés, nous avons reçu l'esprit d'adoption qui dit « Abba, Père » et qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà la réalité de cette filiation. Et ce matin, pour parler de cet amour de Dieu filial, j'aimerais parler de l'amour du Père au travers d'une parabole, d'une histoire qu'on connaît bien, une histoire de la Bible. Et ça n'a rien à voir avec la fête des Pères aujourd'hui. C'est un hasard du calendrier que je parle de ça. Mais j'aimerais souhaiter au passage à tous les papas et à tous les pères une joyeuse fête des pères. On peut juste les applaudir, tous ces papas qui sont là. Et voilà, merci pour tout ce que vous faites. Soyez bénis. Et j'aimerais vous parler de la parabole du fils prodigue, comme on l'appelle. Peut-être que c'est une parabole que vous connaissez déjà bien pour certains, peut-être pour d'autres c'est nouveau. J'ai réalisé que je n'ai jamais parlé sur cette parabole depuis que je suis à Lazare. Même si ça fait 12 ans que je suis à Lazare cet été, je n'ai jamais parlé sur cette parabole. Donc voilà, c'est chose faite, je pourrais le dire. On va prendre ensemble, si vous êtes d'accord, cette parabole qui est dans l'évangile de Luc, qu'on appelle souvent la parabole du fils prodigue, mais qu'on pourrait appeler la parabole des deux fils. Parce que cette histoire se concentre sur deux fils, pas seulement sur un seul. Et plus que ça, elle ne se concentre pas que sur deux fils, mais elle se concentre aussi sur le père. On pourrait l'appeler la parabole du père et de ses deux fils. Ça nous donne un peu une autre perspective de cela. Je vais vous proposer qu'on la prenne, qu'on la lise. Et comme il y a plusieurs versets, ça c'est l'image justement sur la parabole du fils, un tableau de Rembrandt avec le fils prodigue qui revient, mais le fils aîné aussi qui est là, à droite, et le père qui l'accueille. Voilà, donc on peut lire dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et les versets suivants. Alors je vais vous proposer un petit exercice. Parce que souvent, quand on lit, on peut vite partir dans ses pensées. Vous pouvez vous habituer à ma voix. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez vous mettre deux par deux et vous allez vous la lire. Pas la lire chacun de son côté, mais la lire à l'autre. Alors, ça va faire un peu de brouhaha, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que des fois, quand on lit à haute voix, on entend des choses que peut-être qu'on n'aurait pas lues juste dans sa tête. Alors, je vous propose de sortir vos Bibles et de faire comme vous voulez. Soit vous lisez un verset à l'autre, ou soit vous lisez une portion, chacun lit la moitié, à l'autre. Et si vous n'avez pas de connexion Internet, de Bible, j'ai des textes ici pour ceux qui ne l'ont pas. Et vous pouvez vous mettre deux par deux. Et je vais passer vous distribuer pour ceux qui n'ont pas. Elle est tombée, ouais. C'est quelqu'un qui a oublié ça. Ah oui, d'accord.
J'ai peur de me le rentrer dans le doigt quand je bouge mes affaires.
C'est beau de vous voir lire. Quand l'Église lit tous ensemble, quand la Bible est lue chacun dans sa chambre, on ne s'entend pas les autres lire. Mais en fait, là, on réalise l'Église en action. Ça va ? Vous avez terminé ? Pour ceux qui n'ont pas terminé, terminé. Hein, je vous laisse encore un peu de temps. Pour ceux qui ont terminé, je peux leur raconter une blague pour attendre. Une petite blague ? Sur cette parabole justement, vous savez qui c'est qui est, c'est à l'école du dimanche, un parent qui demande à un enfant, enfin un moniteur qui demande à un enfant, dit mais après avoir raconté cette histoire, qui c'est qui est triste dans l'histoire? Et le petit enfant répond, ben le veau gras. C'était attaché au veau. Voilà. Je vous propose donc de reprendre. Merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir travaillé ce matin. Ah, pardon, j'ai un petit problème de technique. Voilà. Donc cette parabole, cette histoire que Jésus prend, nous permet de découvrir les aspects essentiel du cœur du Père. Parce que le personnage central de cette histoire, ce n'est pas les fils, c'est le Père. C'est ce Père humain, mais qui, derrière, nous montre le Père céleste, l'amour du Père céleste et de notre relation à lui. Donc, nous allons suivre ce matin le cheminement de ces deux fils qui sont différents l'un et l'autre, et pourtant, il y a des similarités entre ces deux fils. Les deux, en fait, nous verrons, sont en rupture de communion avec le Père, et nous verrons qu'il y a un cheminement pour retrouver cette communion et cet amour du Père. Et nous verrons donc cela. Et j'aimerais vous interpeller avec une question que je reprendrai après. Ton Père est-il vraiment ton père? Alors, j'aimerais vous inviter à cheminer avec le premier fils, qu'on dit prodigue, mais qu'on pourrait dire le fils cadet, puisque le texte dit que c'est le plus jeune des deux fils. Et voilà ce qu'il va dire au tout début de ce texte. Il va dire, mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Voilà, je veux mon héritage. Quelle est la relation qu'il a avec son père? Finalement, quelqu'un qui pourvoit. Il voit son père finalement comme quelqu'un de qui il peut avoir l'héritage, un géniteur finalement, qu'il peut prendre cet héritage et partir faire sa vie. Et ça commence de manière un peu brutale. Et est-ce que parfois, dans notre relation avec Dieu, lorsqu'on prie le Seigneur ou lorsqu'on est en relation avec lui, finalement, on s'approche de Dieu finalement que pour avoir des choses, pour demander des choses. Bien sûr que la Bible dit que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, vous connaissez cette prière, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu pourvoit nos besoins. Mais est-ce que des fois, nos prières à Dieu sont plus des demandes qu'une vraie relation? Et on voit que ce fils plus jeune voit son père comme un pourvoyeur d'héritage. Et il se dit, je veux prendre mon héritage, je ne veux pas rester plus longtemps dans cette maison et je veux aller vivre ma vie. Et on voit qu'il quitte cette maison familiale pour aller dilapider finalement, vivre dans une certaine forme d'insouciance. Certaines traductions disent qu'il a dissipé et vécu dans la débauche, mais ce n'est pas une bonne traduction. Plutôt dans une sorte d'insouciance, de grande... Voilà, c'est, on y va, on vit la vie. Mais on voit que ce chemin d'insouciance et cette grande vie qu'il vit, sur l'héritage de son père, au passage, ben, ça s'épuise à un moment donné. Il arrive et il est livré à la famine, à la misère, et il est réduit à garder des cochons. Et on sait que dans la culture juive, c'est un animal impur. On ne mange pas de porc. Et voilà qu'il en est réduit, lui, à non seulement les garder, mais pour survivre, à manger aussi de leur nourriture. Lui qui voulait vivre sa vie, être son propre maître, ne dépendre de personne, suivre les chemins de son cœur et peut-être même de son corps, je ne sais pas, ni Dieu ni maître, le voilà maintenant dans une situation de misère et presque esclave, convoit-on la nourriture d'animaux impurs. Sa vie qui était axée sur les plaisirs, sur l'argent, sur la fête peut-être, pas d'état d'âme. On ne se pose pas de questions sur le sens de la vie, comme beaucoup de gens foncent dans la vie aussi, on ne se pose pas trop de questions. On vit une vie superficielle, comme le monde l'est. Vous savez, les choses du monde, on en fait vite le tour. Pas de superficialité, pas de profondeur. Et voilà que ce fils passe par une situation difficile. Et malheureusement, c'est parce qu'on passe par des situations difficiles qu'on cherche Dieu et qu'on crie à lui. Parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin de lui. Et plus que ça, Dieu ne met pas des situations difficiles dans la vie des gens pour qu'ils se tournent vers lui, on est d'accord. Mais parce que la souffrance est le fruit du péché, de l'éloignement de Dieu. Parce que le péché produit l'esclavage, et produit la mort. C'est ça la réalité spirituelle derrière le péché. Et on voit que ce fils souffre. Et la souffrance va produire en lui une réflexion, va le faire réfléchir. Le texte dit qu'il est rentré en lui-même. Voilà, il commence à réfléchir. Avant, il faisait la fête, il vivait sa vie. T'es superficiel, mais voilà qu'il se met à se poser des questions, à réfléchir. Et il va se dire, il va faire une sorte de voyage intérieur en se disant, en se remémorant sa vie d'avant et réaliser ce qu'il a perdu. La repentance, le fait de réfléchir à Dieu, à lui, à qui il est, c'est souvent d'abord réaliser qu'on a un manque de notre vie. Le premier chemin de la repentance, ce n'est pas de faire ceci ou de faire cela, c'est de réaliser dans notre vie qu'il y a une rupture avec Dieu, qu'il y a une rupture avec et qu'on a perdu quelque chose. Il y a comme un manque dans notre vie. La conscience de ce manque nous sauve en fait. Nous sauve de la superficialité et nous amène à chercher un sens à l'existence. Et c'est la parole que Jésus a dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. » Quand il dit les pauvres, ce n'est pas ceux qui sont bêtes, ceux qui ne sont pas intelligents, mais ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, les humbles, car le royaume des cieux est pour eux. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » On voit que ce fils est dans ce manque. Il réalise ce qu'il a perdu. Et il dit, je vais partir et aller chez mon père et lui parler. C'est intéressant de relever qu'il n'a pas dit, je vais partir et rentrer chez moi. Je vais aller chez mon père. Il a conscience de la rupture avec son père. Peut-être qu'il n'avait pas pris conscience sur le moment. Donne-moi mon héritage, je veux vivre ma vie. Mais il a conscience de cette rupture maintenant, de ce qu'il a perdu. La repentance, ce n'est pas faire ceci ou faire cela d'abord, c'est prendre conscience que j'ai besoin de retourner à Dieu, que j'ai perdu quelque chose, que j'ai perdu cette relation. Et c'est d'abord un mouvement de retour à Dieu vers le cœur du Père. C'est ça la repentance. Et la repentance, elle commence déjà là, quand il réalise cela. Il est en train de réaliser, de dire, je vais partir, il n'est pas encore en chemin, je vais aller chez mon Père, je vais me mettre en mouvement pour retourner vers lui. Et c'est intéressant de voir la repentance sous cet aspect-là. La repentance, c'est d'abord un chemin de retour vers le Père. Et en hébreu, le terme repentance, c'est teshuva. Et c'est le mot repentance en hébreu. Et teshuva, encore utilisé par les Juifs aujourd'hui, en Israël, teshuva est composé du verbe shuv en hébreu, qui veut dire retourner, aller. C'est la teshuva, le retour à Dieu. Et c'est intéressant, petite parenthèse, je regarde si j'ai le temps, le retour des Juifs sur leur terre. Au-delà de tout ce qu'on entend, hein, on ne va pas entrer dans le débat politique, mais si vous regardez tous ces Juifs qui ont été loin de leur terre pendant 19 siècles, et ce retour sur leur terre, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, mes amis, Jésus revient bientôt. Et il est dit qu'il va revenir et qu'ils regarderont celui qu'ils ont percé et ils le reconnaîtront comme leur Messie. Amen. Ils reconnaîtront. Dans Romains, il est dit que tout Israël sera sauvé. Tous ceux qui seront là à ce moment verront ce Messie, ce Jésus-Christ qu'ils n'ont pas reconnu, ils le reconnaîtront. Et ça, c'est une espérance. Mais ce processus de repentance a déjà commencé puisqu'ils sont déjà retourner. Et on voit tout ce que ça produit comme conflit et comme difficulté. La confession du fils, je trouve, est exemplaire. Quand il dit, il se dit ce qu'il va dire à son père, et dans ce processus de repentance, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a conscience que ce qui est à la base de toute séparation, de tout péché, avant de voir tout ce que ça peut produire dans notre vie, le péché premier, c'est la séparation d'avec Dieu. J'ai péché contre le ciel et contre toi. La rupture du jeune homme a d'abord été avec son Créateur, sa source, le sens. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous, il y a un vide en chaque être humain en forme de Dieu. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Il y a comme un appel de la source, de son amour, de qui il est, qui est au fond de chaque être humain. Et c'est ça la source de tout péché, de tout ce qu'il peut produire après, par la suite. C'est la séparation fondamentale qui entraîne toutes les autres. Et c'est très important de reconnaître cette réalité-là. C'est cette prise de conscience qui nous permet de retourner à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de grâce sans compréhension de ce péché primordial. Il n'y a pas de thérapie si on n'a pas diagnostiqué cette maladie-là à la base. Ce fils dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes salariés. Waouh. Imaginez le chemin qu'a fait ce fils. Il a claqué la porte familiale en disant « Je prends mon héritage, je veux vivre ma vie !» Et il revient en disant « Je ne suis digne de rien. » Il ne réclame plus. Il n'est plus dans la contestation. Il n'est plus dans la revendication. Il se considère même plus lui-même comme fils. « Traite-moi comme un de tes salariés, de tes ouvriers, de ceux que tu salaries. » Il ne lui reste aucune dignité, aucun mérite, aucun droit. L'Évangile nous révèle l'extrême gravité de notre situation. Notre situation est grave, mes amis. Le péché nous a séparés, nous amène dans une situation terrible, même à croire que Dieu ne nous a pas créés, que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a plus ce statut. C'est fondamental d'avoir cette attitude d'humilité, de se reconnaître devant Dieu comme sans droit, parce que ceci peut amener la grâce de Dieu. Et nous allons voir maintenant la réaction du Père. Découvrons ensemble ce Père révélateur de Dieu qui nous est décrit ici. Alors, juste revenons un petit peu dans l'histoire, au début de cette histoire, feedback, quand le fils demande son héritage. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça doit être dur pour un père de dire, mais où il va ? Tu veux aller vivre ta vie, mais tu n'as pas fini, tu devrais faire l'université. Tu vois, il y a tes diplômes à finir. T'es sûr, mais l'argent n'est pas éternel, mon fils. Il aurait pu, avec toutes les bonnes intentions du monde, le dissuader de partir. Comme nous, en tant que parents, on peut le faire avec nos enfants. Surtout quand ils font des choix dont on sait, on dit, mais où il va, là ? Dans quelle direction ? Et on voit que ce père le libère. Peut-être qu'il n'aurait pas écouté. Peut-être qu'il aurait dit, non, je t'interdis, n'y va pas. Mais il le laisse aller. L'amour vrai libère l'autre, vous savez. Dans le couple, même si l'autre n'est pas d'accord avec nous, on ne va pas lui imposer. L'amour vrai dans la relation libère l'autre. Et son père accède à sa demande, le libère. Et plus que ça, non seulement il le libère, mais en plus il partage l'héritage entre les deux fils. Il donne sa part aussi au fils aîné. Parce qu'il s'est écrit dans le texte, il leur partagea son bien, au pluriel. Donc en fait, vous savez ça dans les histoires de succession, d'héritage, quand un fils veut construire une fille, c'est le moment du partage, et puis il faut donner aussi la part aux autres. Donc le fils aîné reçoit aussi sa part d'héritage, et sans doute qu'il a reçu une part plus importante, parce que dans la culture juive de l'époque, culturellement, le fils aîné recevait plus. Voilà comment ils se sont quittés. Il aurait pu être dans ses droits. « Ah, tu reviens maintenant !» Ah, je t'avais dit, hein, je t'avais dit que en dépensant ton héritage, t'aurais dû faire l'université là à l'UNIL. Je t'avais inscrit, tu te rappelles ? Hein ? En HEC, ah oui, forcément, pour faire fructifier le bien. Exactement. Mais ce père ne lui fait aucun reproche. Et même si ce père, au fond, l'avait perdu de vue, il ne l'avait jamais perdu dans son cœur. Jamais. Il était toujours là. Vous savez, quand nous errons loin de Dieu, quand le monde erre loin de Dieu, Dieu scrute, Dieu attend, Dieu espère toujours. Il regarde à distance, il nous aime toujours. Et en voyant son fils au loin, qu'est-ce que fait le père ? Il court. Il court et se jette à son cou et l'embrasse. Waouh ! Vous savez qu'à cette époque-là, on avait, comme Daniel nous a rappelé dimanche passé, on avait des habits, on avait des sortes de toges. Voilà. Et pour courir, il fallait soulever un peu sa toge et on pouvait peut-être se dénuder. Et puis, ce n'était pas respectable à cette époque-là de courir en tant qu'aussi parent, aîné de cette époque-là. Et on voit que ce que fait ce père est absolument incongru par rapport aux conventions sociales de l'époque. Donc, en fait, ce que fait ce père, l'amour qui est dans le cœur de ce père, qui se manifeste à ce moment-là, est totalement déraisonnable. Ça, c'est l'amour de Dieu. Totalement gratuit et déraisonnable. Impensable, hors des conventions sociales de l'époque. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste un amour juste, c'est un amour fou, mes amis. C'est le cri de Dieu dans le jardin d'Éden. Où es-tu ? C'est le cœur de Dieu qui est déchiré en voyant son Fils crucifié sur la croix pour nous, mais parce qu'il nous aime tellement. C'est déraisonnable, mes amis. La croix, l'amour de Dieu, ce qu'il a fait pour nous rejoindre, c'est déraisonnable. Ce n'est pas juste juste. C'est plus que juste. Et ce fils sale, va-nu-pied, sans rien, puisqu'il lui met des chaussures, hein, ce n'est pas un va-nu-pied, qui devait sentir peut-être le cochon, il saute dans ses bras et il le saisit. Il n'y a pas, comme j'ai dit, un mot de reproche. Il n'y a pas d'attente d'une repentance, alors que le fils a déjà ouvert la bouche. Il s'est dit, mais il faut que... Il le saisit. Et le père restaure le statut de ce fils. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Qu'est-ce qu'il fait plutôt ? Il l'habille avec une belle robe, une robe de choix. Il lui donne une bague. Et cette bague-là, c'est le signe de l'autorité familiale, paternelle. La bague, c'est le signe juridique de l'époque pour signer les documents. Et c'est le signe aussi de l'autorité du père. Donc il le rétablit dans le statut de fils, alors que ce fils pensait qu'il ne l'était plus. Cet enfant qui revient à la maison n'a plus d'héritage. Il l'a tout dilapidé. Mais ce n'est pas grave. Il a trouvé un autre héritage. Il a trouvé l'amour de son père. Il a découvert le véritable amour. Il avait découvert que, alors qu'il voyait son père comme un pourvoyeur de biens, il n'avait pas vu cet amour si grand de son papa. Il est passé peut-être du père au papa. Parce que son père lui dit « mon fils » à ce moment-là. « Mon fils, mon fils ». Le père a changé dans le regard de son fils. Il découvre ce père qui se réjouit de l'avoir retrouvé, qui lui fait une fête, qui tue justement le veau gras, qui attriste tellement cet enfant, qui a été triste de cette histoire. Et voilà qu'il est maintenant de nouveau en relation avec son père. C'est une fête d'amour. C'est une fête d'amour, ça se réjouit, il y a tout le monde qui est là, et ça fait du bruit, tellement de bruit, que le fils aîné qui revient des champs entend ça. Ça, c'est l'épisode 3. Le chemin du deuxième fils. Alors, déjà, en introduction de son cheminement, le dialogue qui va s'en suivre maintenant entre le fils aîné et son père, c'est un dialogue qui ne termine pas. Si vous regardez un petit peu la fin, on ne sait pas comment ça se termine, cette histoire. Il n'y a pas de dénouement, contrairement à la première histoire. C'est un petit peu comme l'histoire du jeune homme riche, vous vous rappelez ? Le jeune homme riche qui part triste, mais on ne sait pas le choix qu'il a fait. Et là, on ne sait pas le choix du fils. Il y a comme une histoire un peu ouverte qui termine comme ça, qui nous interpelle. Cette histoire nous révèle que le fils resté à la maison est tout aussi éloigné de son père que le fils dépensier, celui qui a dilapidé le bien à l'étranger. Alors peut-être vous ne l'avez peut-être pas vu sous cet angle-là, Mais en fait, on peut être perdu hors de la maison familiale, mais on peut être perdu tout en restant dans la maison familiale. Vous savez, il y a des gens qui sont hors de l'Église, qui sont perdus, qui n'ont pas fait ce chemin encore de repentance. D'ailleurs, c'est très important de voir que c'est d'abord en faisant ce chemin qu'on peut recevoir l'amour du Père. C'est important. On ne peut pas dire aux gens « aimer le Père ». Il faut d'abord qu'il y ait un processus de repentance dans leur vie. Donc, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Dieu, ou peut-être qui sont éloignés de Dieu, qui sont en rupture avec le Père. Mais il y a plein de gens dans l'Église, tout en étant dans l'Église, qui ne sont pas en communion avec leur Père, qui sont aussi perdus que le Fils qui est parti. Alors, pour cela, on peut voir que dans ce texte, le Fils aîné est décrit en premier comme un travailleur. Alors, d'ailleurs, il a travaillé jusque tard le soir pour entendre la musique, etc. Et derrière cette apparente qualité, puisque c'est un bosseur, il travaille dans l'entreprise familiale, malheureusement, derrière cette... Peut-être, là, il est obéissant, il fait tout. Derrière ce beau vernis, en fait, son attitude, son cœur est tout aussi déplorable. Et tout aussi déplorable que l'attitude du premier, quand il est parti, du fils cadet. Il va parler de son travail en le comparant à celui d'un esclave. Parce qu'il va dire, ça fait tant d'années que je te sers, je n'ai jamais désobéi à tes ordres, et moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et le mot servir ici, te servir, c'est doulos en grec, c'est je te sers comme un esclave. Il n'a pas conscience d'être fils. Il sert, il fait le job pour son père. Et on se demande même pourquoi il fait le job, puisqu'il se considère comme un esclave, pas comme un fils. Est-ce qu'il y a une attente? Ah, mais peut-être qu'un jour, je récupérerai l'entreprise familiale. Donc finalement, son cœur est tout aussi intéressé que le fils cadet qui est parti. Donne-moi mon héritage. D'ailleurs, l'héritage, il l'a eu. Et il est en colère, ce fils aîné. Il est en colère. Lui qui fonde son travail sur l'obéissance, il a fait les choses bien comme il faut. Et ce fils-là qui a dilapidé tout tes biens, lui, tu l'accueilles. Ce n'est pas juste. Vous savez, il manque profondément quelque chose à ce fils aîné. C'est l'amour pour son frère. Il pêche contre un commandement qui est tellement fort, qui est « aime ton prochain comme toi-même ». Est-ce qu'on n'est pas parfois un peu comme ce frère aîné dans l'Église ? On fait tout bien. On est des gentils chrétiens. Ça ne se voit pas, mais il y a de la colère en nous. « Oh, il a fait ceci et cela, et puis Dieu l'a guéri, ou Dieu il a vécu ça, mais c'est pas juste. Moi, ça fait des années que je suis dans l'Église, et j'ai pas été guéri ou j'ai pas eu ça. » Mais on ne la montre pas, parce qu'on est des gentils chrétiens. Et qu'il ne faut pas le dire. C'est pas bien. On le sait que c'est pas bien. Et on juge. Et on juge des fois ceux qui arrivent à l'Église, qui sont nouveaux chrétiens, qui ont découvert l'amour de Dieu, mais il y a encore plein de choses qui ne vont pas dans leur vie. Tu dis, oh, t'es pas bien, t'as fait ci, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Mais aimons-les et laissons-les cheminer avec Dieu et leur Père. Donc, non seulement il n'aime pas son frère, mais en plus, il n'aime pas son Père. Parce qu'il est en quête de récompense, de salaire. Il se plaint auprès de son père qui lui a jamais offert un chevreau pour faire la fête avec ses amis. Non mais imaginez le reproche égoïste, quoi. C'est tu m'as jamais offert un chevreau pour m'éclater avec mes potes. Donc imaginez, il veut pas faire la fête avec son père. Il veut faire la fête avec ses amis. Est-ce qu'il n'est pas tout aussi... Il ne ressemble pas finalement au fils cadet qui a voulu partir avec les biens de familial pour faire la fête, lui avec ses amis. Et puis, son père, il voit finalement quelque part, un peu comme son frère, son père comme une vache à lait qui va donner tout ce dont il a besoin, mais il n'est pas en relation d'amour avec lui. Et la réaction du Père est extraordinaire. 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 D'abord, face à la colère du Fils, le Père ne s'emporte pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Toi, mon enfant ». D'ailleurs, c'est une formule encore plus chaleureuse que « Toi, mon fils ». Il y a quelque chose, l'expression, cette expression dénote un amour profond. « Toi, mon enfant ». Et qu'est-ce qu'il lui dit face à ses reproches ? Parce que qu'est-ce que fait ce fils aîné ? Il n'arrête pas de reprocher tout ce que le fils cadet a fait, mais le père, c'est lui qui a été lésé. Il n'a rien reproché à ce fils cadet. Il aurait pu lui dire tout ça, mais il n'a pas eu cette attitude. Donc, il lui dit, « Toi, tu vois, ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. » Parce que le fils aîné dit, « Ton fils qui a fait ça ?» Et puis lui dit, « Ton frère, il le recentre dans la relation. » « Ton fils qui a fait tout ça ?» Non, ce n'est pas mon fils, c'est aussi ton frère. Ton frère. Et il lui dit encore quelque chose de plus fort. Comment il répond ? Ah, mais tu ne m'as pas offert un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Ah, mais j'ai rien, tu ne me donnes rien. Je bosse pour toi depuis des années et tu ne me donnes rien. Comment le père lui répond ? Il lui dit, mais je suis avec toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Qu'est-ce que tu dis que tu n'as rien ? Tu as tout. Et puis, il lui montre, tu es toujours avec moi. Vous voyez ce qu'il dit ? En fait, le père est plus préoccupé de qui est son fils aîné que de ce qu'il fait. Il est plus intéressé par son cœur que par ses œuvres. C'est pareil avec l'autre fils. Il a fait des choses pas bien, certes, mais la communion est retrouvée. Il est plus intéressé par le cœur du fils cadet que ce qu'il a fait. Parce que ce qui est le plus important, c'est d'être en communion avec lui. Communion d'amour avec le Père. Cette communion est retrouvée. Quel amour ce papa. Et pas en théorie, en vrai. Nous avons tout en Dieu et parfois, nous nous plaignons souvent de ce que nous n'avons pas. De ce que nous aimerions avoir. Quelle est notre relation avec le Père céleste ? Le Père appelle son fils aîné à se réjouir de la fête qui se passe, se réjouir de la rédemption, du pardon des péchés, du salut. Voilà l'invitation qu'il lui donne. Est-ce qu'il va y répondre ? Le texte ne le dit pas. Et ça, c'est un grand enseignement pour nous, mes amis, dans l'Église. Pour moi, comment je regarde mon frère, ma sœur ? Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons tous le même Père qui nous aime. Comment je regarde mon frère et ma sœur ? Comment je regarde comment Dieu agit avec l'un ou avec l'autre ? Et si nous sommes vraiment en communion avec le Père, nous recevons cet amour, alors nous pouvons regarder mon frère et ma sœur avec un amour réel et pas être dans la contestation, dans la justification et dans la colère. De nouveau, je disais dans ma première prédication sur l'amour, c'est en aimant Dieu et en se laissant aimer par lui qu'on pourra aimer mon frère et ma sœur. Vous savez, j'avais donné cette image de plus on est éloigné de Dieu, plus on s'approche, plus on se rapproche les uns des autres. Et c'est exactement ce que dit aussi cette parabole. Alors je termine avec cette question que j'aimerais vous laisser. Ton père est-il vraiment ton père ? Est-ce que l'amour fou de ton père t'atteint ? Est-ce que tu réalises l'amour fou de ton papa ? L'amour parfois déraisonnable. Amour pour toi, malgré que tu te sentes indigne comme ce fils cadet. Peut-être que dans l'Église, il y a des gens qui disent « Mais moi, je ne me sens pas être enfant de Dieu. Je n'ai pas cette assurance au fond de mon cœur. On peut prier pour vous ce matin pour que vous receviez cette assurance. Parce que la Bible dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si ce matin, il y a quelqu'un ici dans cette salle qui dit mais moi, je n'ai pas cette assurance que Dieu m'aime et que je suis son enfant, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien ni personne qui peut vous séparer de l'amour de Dieu ce matin. Amen. Et on peut prier pour vous tout à l'heure, si vous le souhaitez. Et peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur. Peut-être que tu as pris un chemin à un moment donné qui n'était pas la volonté du Père qui est bonne, agréable et parfaite. Et tu titubes à gauche, à droite, à différentes choses dans ta vie. Mais bonne nouvelle, le chemin du retour vers le Père est toujours ouvert. Ce chemin, Jésus-Christ l'a ouvert par son sacrifice et il est toujours ouvert. Par contre, la balle est dans ton camp. Si tu veux recevoir cet amour, il faut te mettre en marche. Retourner vers le Père. Et l'amour aussi de Dieu est là pour toi qui es dans l'Église, qui sert Dieu depuis des années, qui dit « Mais je vis ça, c'est pas juste. Ah, mais comment ça se fait qu'après tout ce que j'ai fait pour toi, comme je t'ai servi, comment ça se fait que ça arrive dans ma vie ?» Et il y a de la colère. Il y a de la colère. Et le Père n'est pas effrayé par la colère de son Fils. Il va au-devant de cette colère. Ce n'est pas grave, tu peux te mettre en colère, tu peux dire à Dieu. Mais Dieu veut t'amener dans une relation plus profonde avec lui, au travers de cela. Et ceci nous permettra de vivre l'Église comment Dieu veut qu'on la vive, avoir un regard nouveau les uns sur les autres. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce ce matin qui est là. Merci pour ton amour, ton cœur de Père, ton cœur, cette filialité qui est là en Jésus-Christ. Merci parce que rien ni personne ne peut nous séparer de cette réalité-là. Seigneur, alors que nous allons prendre cette scène, ce repas qui nous rappelle que l'accès est ouvert ce matin, qu'on puisse ce matin, dans notre intimité, mettre nos cœurs devant toi, notre pensée, nos émotions, notre volonté, et de pouvoir avoir ce cœur à cœur avec toi. Seigneur béni, tu connais la situation de chacun et chacune ici. Tu sais où on en est par rapport avec toi, si on est dans la maison, si on est éloigné ou si on est sur le chemin du retour. Tu connais chacun et chacune. Tu sais où on en est. Et Seigneur, je te prie ce matin que ces paroles puissent produire le fruit dans nos vies, dans ma vie. Seigneur, je veux plus m'approcher de toi. Je ne veux pas être dans le savoir-être, je vais être dans le savoir-faire, mais je vais être dans le savoir-être, je vais être dans cette relation avec toi, parce que c'est ce qui est le plus précieux et c'est ce qui nous tiendra dans les temps dans lesquels on vit. Ô Seigneur, viens répandre ton amour dans nos cœurs encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen.